partie maintenant qui est la partie habituellement pour le message, avec dans un tout premier temps une petite vidéo de 3 minutes sur ce qu'est Portes Ouvertes, puis Guy va vous apporter quelques perles de la parole, et puis je reprendrai la parole pour vous donner des témoignages du terrain. J'aimerais juste préciser ceci pour que les choses soient bien claires. Vous avez bien fait de venir. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, vous pourriez suivre ce message depuis l'Internet, mais vous allez voir des images ici qui ne seront pas reproduites sur l'Internet pour des raisons de sécurité. Alors, mais c'est la même chose que ce qu'on vit. Je vous montre quelques images, quelques photos que j'ai eu le droit de prendre, mais il y a parfois où on transmet des témoignages, on n'a même pas eu le droit de sortir un appareil de photo parce que ce serait trop dangereux ou parce que ce serait culturellement inapproprié. Alors ça fera partie de la troisième partie de... Mais je démarre tout de suite avec maintenant le PowerPoint s'il est en place.
Portes Ouvertes a démarré en 1955 quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive.
God spoke to me again through his word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a burning in my heart. And I said, Lord, yes, but how?
Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développée dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits. Et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises. Aujourd'hui, nous sommes présents dans ces pays et dans bien d'autres encore. Dans le monde, 215 millions de chrétiens sont persécutés, discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Comme nous le montre l'actualité récente, la situation des chrétiens persécutés ne fait qu'empirer. Portes Ouvertes continue à soutenir l'Église persécutée dans les pays les plus hostiles à l'Évangile. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile.
I think we in the West, and this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage and strong convictions. And don't count our lives dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I'm at. That's what I want the young people to do.
Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée.
Il y a une image qui doit apparaître. Ou bien je dois la faire venir.
Portes Ouvertes.
C'est bon. C'est une image importante, vous verrez, parce qu'il y a un collier magnifique avec des diamants. Voilà. Frère André, que vous avez vu sur l'écran, c'est une personnalité, moi, qui m'a beaucoup interpellé au début de mon cheminement de foi. J'avais 25 ans à Lausanne, avec un arrière-plan catholique, jamais lu la Bible, et puis j'ai eu des jeunes chrétiens sur ma route qui m'ont témoigné de leur foi, et puis qui m'ont donné, m'a invité à lire des ouvrages de témoignages. Et moi, j'étais complètement bouleversé de voir la force, le courage que Dieu avait donné à cet homme, dans sa simplicité, dans son humilité, mais aussi dans son obéissance. Et je suis touché aussi par sa confession à la fin, quand il dit « Mais en Occident, nous sommes lâches, nous avons de la peine à réaliser dans le fond le prix que payent certains chrétiens dans le monde, et ça m'interpelle aussi. » Pourquoi est-ce que j'ai mis ce collier de perles ? Parce que je trouve que c'est une image qui me parle, d'abord. Et ensuite, j'espère que ça peut nous permettre de continuer ce qui a été lu tout à l'heure dans les psaumes, cette sélection de psaumes magnifiques. Alors j'aimerais continuer par le Nouveau Testament. Et quand je parle de perles, c'est parce que je me dis parfois comment est-ce que ces chrétiens arrivent à tenir le coup. Alors que moi, souvent, j'ai honte, je dois confesser aussi que j'ai parfois peur de parler de Jésus à des voisins. Ou ça peut être à des collègues de travail, ou à des gens de la famille. Et la question que j'avais ensuite sur mon cœur, c'était de me dire, mais dans le fond, si ces personnes ont le courage, si ces chrétiens ont le courage de vivre ce qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur une force particulière. Et puis, ça je trouve que c'est très intéressant parce qu'on découvre petit à petit que la persécution, c'est pas seulement sous sa forme la plus violente, avec des arrestations, avec peut-être un emprisonnement, voire parfois aller jusqu'à la mort. En fait, on va découvrir à travers les textes que je vais vous montrer ce matin, très brièvement, qu'on peut être tous concernés par la persécution, et même ici en Occident. Et si, suivant dans quel contexte vous avez grandi, une famille, suivant sa religion, et que vous découvrez Jésus, que vous commencez à dire, peut-être dans votre famille, que Jésus est le Messie, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu, eh bien, peut-être parmi nous, certains ont eu cette confrontation à la famille ou qui était très, très douloureuse. Donc il n'y a pas besoin d'habiter en Corée du Nord ou en Chine pour vivre aussi des combats et des luttes. Alors je vous livre quelques perles brièvement. Malheureusement, techniquement, c'est écrit assez petit. Alors ne vous précipitez pas demain chez l'ophtalmologiste si vous n'arrivez pas à lire, ou bien vous vous rapprochez un petit peu, ça ira un petit peu mieux, je vous citerai les textes. Luc 21, 12, où là il y a une prédiction de Jésus, au moment où les disciples sont en train d'admirer la beauté, la grandeur du temple à Jérusalem, et Jésus leur dit, mais vous savez, ce temple, il ne va pas rester debout longtemps, il va être détruit. Et puis il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, il leur annonce beaucoup de choses qui vont se passer, et ça semble très sombre dans ce qu'il annonce, et les disciples sont un peu ébranlés, comme nous pouvons l'être par rapport à la société dans laquelle on est, on entend souvent des mauvaises nouvelles, et Jésus leur dit encore ceci, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Tous les hommes souffrent, tous les hommes peuvent être dans l'épreuve sur cette terre, qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais il y a une tribulation particulière qui est en lien direct avec le fait d'appartenir à Jésus. Et la première église va éprouver très rapidement la réalité de ces prédictions. Ensuite, Jésus va encore dans Jean 15, versets 18-20, donner aussi cet élément quand même qui est intéressant et important. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'est une affirmation qui peut nous faire trembler, bien sûr, et en même temps, elle est réalité. Et on a peut-être l'illusion de se dire, mais dans une société comme celle que nous vivons, il y a Internet, il y a l'ONU, il y a toutes sortes de réclamations pour la liberté humaine. Est-ce que c'est possible qu'il y ait tellement de gens qui sont malmenés à cause de leur profession de foi? Eh bien oui, et ça c'est un principe qui doit nous faire réaliser que il y a un prix à payer pour être chrétien. Est-ce qu'on en mesure vraiment le poids, et est-ce que Dieu peut nous parler à ce sujet? C'est une affirmation qui est assez carrée à quelque part. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi, mais c'est surtout un principe spirituel. Et c'est assez impressionnant de voir, parce que si on veut confesser le nom de Jésus, ça va. Alors il faut le faire intelligemment, et on est bien d'accord, pas par provocation, dans l'amour, dans une juste attitude, mais il y aura forcément des réactions, parce qu'il y a un combat spirituel. Et nous savons qu'il y a des puissances spirituelles qui sont opposées totalement à ce que nous puissions témoigner, à ce que nous puissions amener dans le royaume de Dieu des personnes qui sont comme dans une prison spirituelle. Un troisième perle qui me parle, en tout cas pour moi, c'est dans Actes 9. C'est Saul de Tarse, qui est un juif passionné par la justice de Dieu, comme il la comprend, très zélé pour une religion pure, et qui est furieux, comme beaucoup de ses coreligionnaires, contre ce Jésus de Nazareth qui prétendait parler de la part de Dieu, et qui va pourchasser tous ses disciples qui auront expérimenté la réalité des paroles de Jésus, de ce qu'il avait prédit, de ce qu'il avait affirmé clairement, et eux vont la prendre à leurs dépens. Et Saul va persécuter les chrétiens, il va même aller jusqu'à Damas, et je ne sais pas si ça vous frappe, les paroles que Jésus proclame à ce moment-là, quand il le rencontre, quand il se révèle à lui sur le chemin de Damas, Saul, Saul, il ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu les chrétiens, mes disciples, mais pourquoi me persécutes-tu » Ça, c'est une précision quand même importante. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, à quelque part, quand on nous persécute, nous savons, et je crois que c'est aussi quand même fort, ça nous affermit, nous savons que c'est le Seigneur qui se sent concerné, parce que nous sommes précieux à ses yeux. Et face aux souffrances de l'Église qui est ouvertement persécutée, je pense que bien qu'un texte comme cela peut aussi fortifier et affermir, mais ça peut aussi nous rejoindre dans nos circonstances. Chaque fois que l'ennemi essaye de faire du mal à travers des humains qui sont aveuglés, dont le cœur est obscurci, qui sont sous une influence, on peut dire, démoniaque, eh bien, on sait que c'est Jésus qui va être notre avocat, qui va prendre notre cause en main. Ce qui ne veut pas dire qu'on échappera forcément à la souffrance, à la prison, voire à la mort, mais on sait que notre cause, elle est défendue devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Une quatrième perle, c'est Hébreux 13:3. Là, c'est de l'ordre d'une exhortation. Après une prédiction, une assurance qui est donnée, il y a aussi ces dimensions-là de notre engagement, comment est-ce que nous pouvons répondre à cela. Et le Seigneur va nous faire confiance. Il va nous permettre d'être ses bras et ses mains auprès de ceux qui sont prisonniers. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous êtes dans un corps. Et on va voir que notre solidarité peut s'exprimer, parce que nous sommes un corps magnifique où chacun peut, pour sa part, avoir une activité qui est en faveur de ces personnes qui sont dans la souffrance à cause de leur foi. Et j'ai été très touché ce matin de rencontrer, je sais qu'il y a quelques Colombiens parmi nous, et en Colombie, Il y a beaucoup de pasteurs qui ont été mis à mort à cause de leur foi. C'est assez surprenant par certains côtés. Hein. On ne s'imagine pas ça depuis l'Europe, depuis l'Occident. Mais j'ai lu récemment le témoignage d'un homme de portes ouvertes qui avait été au contact avec un chrétien de Colombie qui avait passé par la prison. Et cet homme disait que, vous savez, on peut signer des pétitions ou on peut envoyer des lettres d'encouragement aux chrétiens qui sont persécutés. Cet homme avait reçu des centaines et des centaines de lettres du monde entier dans sa cellule. Alors il disait, j'arrivais pas à lire vraiment les messages, je savais pas la langue des gens qui lui écrivaient souvent. Mais il savait, il y avait quelques lettres en espagnol, il savait que c'était des chrétiens du monde entier qui lui avaient écrit, et il disait que de temps en temps, il se couchait sur le tas de lettres qui étaient dans sa cellule, qu'il avait pu conserver. Et c'était comme si c'était les bras d'amour de Jésus qui l'entouraient de sa présence. Et il disait que ça lui donnait du courage, parce qu'il ne se sentait à ce moment-là plus seul. Il savait qu'il n'était pas abandonné et que Dieu manifestait son amour à travers le corps de Christ. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Et puis enfin, une promesse qui est donnée, c'est dans Matthieu 25, 36, 39, 40, à propos des prisonniers, et particulièrement pour ceux qui étaient en prison à cause de leur foi. C'était le cas de plusieurs disciples. Dans le livre des Actes, on voit ces récits, notamment aussi Paul et Silas à Philippe. « J'étais en prison, vous êtes venus me voir. Quand avons-nous vu en prison et sommes-nous venus te voir ?» Hein? C'est une forme de parabole hein, que Jésus utilise là. Et bien finalement il dit, mais dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et j'aimerais pour terminer vous donner un témoignage concernant une visite que j'ai faite dans un pays où, à des chrétiens persécutés avec un frère de Portes Ouvertes. Et c'était assez bouleversant cette visite parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer un chrétien qui avait été en prison plusieurs années à cause de sa foi. Et quand mon frère de Portes Ouvertes était là devant ce prisonnier, tout d'un coup, le nom de cet homme lui rappelait quelque chose. Lui rappelait ce premier jour où il avait commencé lui-même à être impliqué avec l'équipe de Portes Ouvertes. Et là, le premier jour de son travail, eh bien, toute l'équipe était réjouie parce qu'elle avait reçu l'annonce de la libération de ce prisonnier. Et tout d'un coup, lui, 20 ans après, se trouve face à face avec ce prisonnier. C'était une joie, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'on peut, puisqu'il n'y a pas... Voilà. Peut-être vous reconnaîtrez certains visages. Mais c'était un moment pour moi très très intense, magnifique. Et je me disais, ben voilà, finalement... Le Seigneur nous montre des choses peut-être un peu douloureuses, difficiles à entendre dans sa parole, mais c'est pour nous équiper, c'est pour nous permettre de ne pas être trop déconcertés si on apprend que des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi, ou si nous-mêmes nous sommes confrontés à des difficultés relationnelles avec des personnes qu'on aime, parce que nous proclamons la foi en Jésus. Finalement, nous ne sommes pas tout seuls, et ce travail, ces ministères pour l'Église persécutée, ça porte du fruit, ça porte une bénédiction. Et même des gens qui sont des persécuteurs, comme Saul de Tarse l'a été, à un moment donné, peuvent être touchés de voir la force qui est accordée par la grâce de Dieu à des gens qui sont persécutés, à qui on fait du mal. Et combien de geôliers se sont convertis, combien de persécuteurs se sont convertis parce qu'ils ont réalisé que ceux à qui ils faisaient du mal ne leur rendaient pas le mal pour le mal, mais témoigner d'un amour incroyable pour eux. Et tout cela parce qu'ils retrouvaient les ressources en Christ par la bénédiction qu'ils recevaient à travers le corps de Christ. Amen.
Là, on a déjà...
Et Guy nous a déjà fait voyager en Colombie, au Moyen-Orient, puis maintenant je vous emmène avec moi en Inde. En Inde où j'ai eu l'occasion avec toute une équipe de Suisses de me rendre l'année dernière. Et pourquoi je vais vous parler de l'Inde? C'est parce que aujourd'hui la situation va de mal en pis dans ce pays, d'une part, et que deuxième chose, quelque chose de très important, le mois prochain, il y a les élections. Et je vous parle de l'Inde avec dans cette arrière-pensée, c'est que d'ici au mois d'avril, jusqu'à ce que vous appreniez le résultat des élections, que vous puissiez prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans ce pays. Vous savez, parfois on est surpris comment Dieu laisse faire des choses qui finalement conduisent au bien de son Église, au bien du royaume de Dieu. Alors je ne peux pas vous dire Dieu va enlever un tel ou va mettre un tel, j'en sais rien. Mais que la volonté de Dieu soit faite en Inde, c'est ma prière et j'aimerais qu'à la fin de cette rencontre, ce soit aussi votre prière. Donc je vous emmène voir un jeune pasteur que nous appellerons Manish. Manish, il est né dans une famille hindoue. Et puis, vers l'âge de 14-15 ans, comme ça, il est sérieusement malade. Sa maman a commencé de temps à autre de fréquenter l'église. Et puis, vraiment, la maladie de son fils adolescent la perturbe. Il est sérieusement atteint. Il n'y a pas beaucoup d'espoir médicalement. C'est une famille de la classe moyenne. Et puis voilà que le pasteur prédicateur vient à la maison et puis il prie pour Manish et voilà que Manish est miraculeusement guéri. Mais il ne veut rien savoir de ce que sa maman trafique avec cette église locale, avec ce pasteur. Et pendant 2 ans, le pasteur va continuer de les visiter à la maison et pendant 2 ans, il va refuser. Et pendant 2 ans, le message du pasteur évangéliste sera invariable. Manish, si Dieu t'a ramené de la mort à la vie, c'est qu'il a un plan pour ta vie et il aimerait que tu te confies à lui. Et après 2 ans, voilà que enfin Manish donne sa vie au Christ. Il devient à son tour chrétien. Sa maman l'est, mais pas le papa. Ça se fait en cachette. Et il poursuit des belles études. Jusqu'en post-grade à l'université, hein, un doctorat. Mais pendant son adolescence, après s'être donné à Christ, il a reçu une conviction forte, c'est qu'il allait servir Dieu pour ou à, il a un mot, Sangipati. Il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un village? Est-ce que c'est une ethnie? Vous savez, il y a 2000 groupes ethniques en Inde. Vous ne pouvez pas tout connaître. Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est une personne en particulier? Aucune idée. Mais c'est quelque chose qui est inscrit là-dedans. Et puis voilà qu'il termine ses études. Il est en train de rentrer à la maison. Avec son post-grade, il a déjà quasi signé son contrat d'engagement. Il va gagner 100 000 roupies par mois. C'est un très bon salaire de la classe moyenne. Et voilà que sur le chemin de retour pour aller à la maison, le bus tombe en panne. J'ai trouvé que ce pneu crevé pour l'illustrer ça. C'était une panne plus sérieuse que ça. Il faut que tout le monde sorte du bus, sinon on va crever de chaud à cause du soleil. Il n'y a pas de clim évidemment, mais comme il n'y a même pas d'air qui vient parce qu'on roule, il faut sortir. Et voilà qu'il sort. Et il tombe nez à nez avec le panneau d'entrée de la localité qui est, vous avez suivi un petit peu, Sangipati. La réponse de Dieu. Et du coup, ça bouleverse complètement sa vie. Et au lieu de partir sur ces plateformes pétrolières où il va bien gagner sa vie, il décide de servir Dieu dans ce village. Il en parle à quelques pasteurs qui lui disent « Où va pas, surtout pas là-bas ». Surtout pas là-bas. Ils sont réfractaires à l'évangile. Ils sont violents. Surtout pas. Vous croyez que ça le détourne? Ben non, puisqu'il a un appel. Et il y va. Et pendant 1 année, il va annoncer l'évangile avec très peu de résultats. Quelques-uns qui commencent un peu de s'intéresser à ce qu'il a à dire. Puis voilà que sa famille le fait rappeler, comme ça c'est fréquemment le cas en Inde, parce qu'ils ont choisi pour lui une épouse. Et comme ça se passe quand c'est les parents qui choisissent, les jeunes mariés se rencontrent quelques jours pendant 2 heures avant le mariage. Et puis la fiancée a le droit de dire non, mais pas le mari. C'était décidé par les parents, c'est une affaire entendue. Et voilà qu'elle dit oui. Et voilà que Manish va découvrir qu'elle aussi est devenue chrétienne en secret. Et elle part avec lui pour le servir dans ce village, dans cette localité. Et puis un beau jour, une année et demie plus tard, ils sont en route sur le vélo familial. C'est comme ça que ça se passe en Inde. Vous avez un vélo, puis jusqu'à que vous puissiez plus, puis après c'est la moto. J'ai compté des motos avec 7 personnes dessus. C'est ça le véhicule familial, mais là c'est un vélo. Ils sont pris à partie par des jeunes excités hindous, fondamentalistes, qui les font chuter de vélo, qui les tabassent à coups de barre de fer. On ne veut pas de cet évangile ici. Et madame qui est enceinte du 6e mois perd le bébé là sur la rue. Elle lui dit: non mais c'est trop dur ici, on va s'en aller. On va aller ailleurs. Et elle est encore plus ferme que lui: non mais il n'y a rien à faire, t'as un appel pour ici, Dieu t'a appelé, on reste. À ce moment-là, ils avaient une dizaine de convertis, tout au plus, dans l'église. Et ils ont tous quitté l'église. Parce qu'ils ont dit: si ton Dieu Jésus ne peut pas protéger notre pasteur et sa femme, alors pourquoi est-ce qu'il nous protégerait, nous? Et il faut tout recommencer depuis le début. Puis les années passent. Et on arrive un an en arrière, début mars 2018, il y a un important chef hindou qui est mort dans la localité, donc il y a une procession funèbre, il y a un cortège, c'est très bruyant. Et Manish, sa femme est absente heureusement ce jour-là, mais Manish se réfugie dans ce qui leur sert à la fois de logement et d'église. Vous verrez tout à l'heure une image, ou plutôt ce qu'il en reste. Mais voilà, il se réfugie là, il met un casque sur les oreilles, il écoute, je ne sais pas trop si c'est de la louange, j'ai oublié de poser la question si c'est de la louange, si c'est des versets bibliques, mais enfin il se réfugie pour s'écarter de ce bruit infernal qui est fait par cette procession. Et puis alors qu'il est dans sa méditation, en train d'écouter quelque chose de plaisant, voilà qu'il se dit: mais il y a une drôle d'odeur, ça sent le brûlé ici. Et il se retourne, et toute l'habitation qu'il loue, qui leur sert à la fois d'église et de lieu d'habitation, est en flammes. Et il va sortir, ça c'est pas une photo d'illustration, il va sortir en poussant, et au moment où il va pousser ce double battant pour échapper à la mort dans l'incendie, je vous rappelle qu'il y a quand même 10 personnes qui ont perdu la mort de cette façon en Inde l'année dernière, 10 chrétiens. Eh bien, pour échapper à cet incendie, il pousse le double battant et puis le linteau qui est ici va lui tomber sur les épaules et il va être brûlé au deuxième degré et même par certains endroits au troisième degré et il va aller à l'hôpital. Cette photo, comment est-ce qu'on l'a, cette photo? C'est pas lui qui l'a prise, il est encore dedans au moment où la photo a été prise. Elle est prise par ceux qui ont mis le feu à l'église pour se vanter de ce qu'ils ont fait, pour terroriser les autres et pour encourager d'autres hindous fondamentalistes à faire pareil. Et cette photo, elle circule sur des réseaux sociaux et nos équipes, on ne peut pas connaître les 100 000 pasteurs, plus de 100 000 qui sont comme ça en Inde actuellement, mais on peut suivre ce genre de choses qui sont faites à la fois par les pasteurs qui s'encouragent, ils ont des réseaux sociaux, des comptes WhatsApp, mais aussi ceux qui se vantent de ce qu'ils commettent auprès des églises pour se dire: ah, là, il y a quelqu'un qui a besoin de notre aide, il faut qu'on aille le voir à l'hôpital. Et lorsque mon collègue est allé le voir à l'hôpital, il ne s'est pas plaint de sa moto sur laquelle il y a encore un leasing qui avait brûlé, il ne s'est pas plaint de... Ils avaient tout perdu leurs affaires. Quand je l'ai rencontré 5 semaines plus tard, imaginez-vous, il avait emprunté un pantalon et une chemise pour venir nous voir. Il ne s'est pas plaint de ça. Ce qu'il a dit à mon collègue, c'est: mais comment est-ce qu'on va faire pour avoir le culte dimanche prochain, puisqu'il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'église? C'était ça, sa préoccupation. Ils ont maintenant une trentaine de convertis. Où est-ce qu'on va mettre ces 30 convertis? Où est-ce qu'on va faire le culte? Cette histoire, c'est une des nombreuses que je pourrais vous raconter qui illustre la situation en Inde. Vous voyez que l'Inde, maintenant, est au 10e rang de l'index mondial de persécution. Donc, c'est un index qu'on publie chaque année pour montrer où l'Église est le plus persécutée, où elle a le plus besoin de notre aide. Et ça, c'est basé sur des chiffres concrets, et on voit que, si vous voulez, on a un classement, mais pour arriver à cette 10e position, eh bien, où est-ce que je l'ai ? Vous voyez que, et là, ça correspond vraiment à l'augmentation de la persécution, correspond à 2014, l'arrivée au pouvoir du Parti nationaliste BJP. Je vous fais grave du nom indien, vous le trouverez sur Internet. Je le prononcerai très mal. Mais c'est des nationalistes hindous. Si vous voulez, c'est une forme à quelque part de nazisme, où on dit on va éradiquer de l'Inde tout ce qui n'est pas hindou. Il y a une idéologie là derrière, l'hindutva. Et puis ce parti qui est au pouvoir depuis maintenant 5 ans et qui espère renouveler pour un bail de 5 ans, qui espère même arriver à 2/3 des sièges en avril prochain, et s'ils le peuvent, ainsi pouvoir changer la constitution et éliminer complètement le christianisme de l'Inde, ça c'est leur projet. Et entre autres, ben, depuis 5 ans, ce parti a promulgué dans différents états des lois anti-conversion. Mais sous la branche politique du BJP, il y a une branche religieuse qui a mis sur pied cette idéologie de l'Hindutva et qui ont des campagnes de reconversion à l'hindouisme. Et puis, ce même parti religieux finance aussi des actes comme celui de cette église brûlée. Je vous donne un exemple. Pour cette église brûlée, du frère Manish, ceux qui l'ont fait ont reçu une avance de 4500 roupies. C'est ce qu'il faut pour vivre un mois. C'est ce dont Manish a besoin pour vivre un mois, pour se nourrir, pour louer le local où il était, et ainsi de suite. 4500 roupies, c'est l'avance si on s'engage à mettre le feu à une église, pour pouvoir acheter les produits, pour mettre le projet sur pied. Mais pourquoi ils publient ces photos comme je vous l'ai montré? C'est qu'après, ils vont toucher de la part de ce RSS une récompense de 45 000 roupies. Une année de salaire dans un village comme ça. Je vais voir si la vidéo fonctionne.
Il y a une propagande dans le pays pour ramener les chrétiens à l'hindouisme. Dernièrement, il y a un important dirigeant hindou qui affirmait que grâce à cela, plus de 500 000 chrétiens se seraient reconvertis. C'est un chiffre énorme. Pour commencer, ils isolent les chrétiens du reste de la communauté. Quand il commence à y avoir 5 ou 10 familles chrétiennes, ils chassent d'abord le pasteur. Si le pasteur vient de l'extérieur du village, ils ne le laissent plus entrer dans le village pour qu'il ne puisse pas faire de culte. Ensuite, ils exercent une pression sur les chrétiens. Ils envoient des extrémistes hindous dans les maisons. Ils profèrent des menaces et les mettent à exécution si les chrétiens restent attachés à Jésus et continuent d'annoncer l'Évangile. À ce moment-là, la vie des chrétiens est menacée. Ils menacent de kidnapper les enfants, menacent de violer les femmes, ils menacent de détruire tous leurs moyens de subsistance. Dans le même temps, les gens du village se mettent à éviter les chrétiens.
La prochaine étape pour les extrémistes est de recourir à la violence pour forcer les chrétiens à prier des idoles durant une cérémonie hindoue.
Sous la pression et les menaces, on n'a pas tenu et on a renoncé à notre foi. J'ai pleuré toute la nuit parce que j'avais trahi Christ. Mais le Seigneur m'a rappelé, même si le juste tombe cette fois, le Seigneur le relèvera. Les jours d'après, ils avaient organisé un rituel où je devais de nouveau être forcé de prier une idole. J'ai quitté ma maison et je me suis enfui. J'ai observé depuis la forêt pendant qu'ils fouillaient ma maison. Dieu m'avait sauvé. Si j'étais parti un peu plus tard, ils m'auraient attrapé. Les gens criaient « Où es-tu ? On va te tuer et t'enterrer dans ta propre maison. » Nous avions réussi à te faire renoncer à ta foi, mais tu es redevenu chrétien. Il y avait dans mon village 10 familles chrétiennes et 7 d'entre elles ont renoncé à leur foi à cause de la persécution. Certains chrétiens de mon village m'ont appelé et m'ont prévenu. Ne retourne plus au village, ils veulent te tuer.
Voilà ce genre de témoignage, ce genre d'histoire qu'on entend. Et en même temps, l'Église grandit en Inde. Elle a doublé en 20 ans. Mais ce n'est pas 3000 comme à la Pentecôte, 5000 dans un stade et comme ça. C'est vraiment du 1 à 1 à 1 sur une longue période. Parce que vous avez beaucoup de gens qui ont consacré leur vie, vraiment qui ont mis leur vie sur l'autel. Parce que ce qu'ils ont trouvé en Christ est tellement plus fort que ce qu'ils vivaient dans l'hindouisme. Il dit, mais je ne peux pas revenir en arrière. Il n'y a pas de comparaison possible. Et il faut que d'autres le sachent. Et ils mettent leur vie sur l'autel. Et ils ne sont pas découragés. Alors c'est vrai, certains ont besoin d'aide. Je pense, oui, cette famille-là, à qui on a offert de construire une échoppe, ils étaient boycottés. Plus personne ne venait acheter quelque chose dans le magasin, dans le village. Alors on a construit cette échoppe, si vous voulez, c'est la station d'autoroute de Gland, là, hein, où les gens font le plein, non, et pas le plein d'essence, mais où ils trouvent de quoi se sustenter alors qu'ils sont en route. C'est en dehors de la localité, et ceux qui s'arrêtent ne posent pas de questions, savoir qui tient cette échoppe. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'acheter à manger, ils s'arrêtent et ils achètent, et ça donne à ce pasteur l'occasion d'avoir de quoi vivre et d'avoir de quoi continuer son ministère auprès des gens de son village. Dans un autre cas, si je vous dis, ça n'a rien à voir avec l'Inde, hein, mais est-ce que le nom d'Asia Bibi vous dit quelque chose ? De quoi est-ce qu'elle a été accusée ? Vous vous souvenez ? D'avoir bu de l'eau d'un puits et de l'avoir, ou dans un ustensile, et de l'avoir rendu impur. Il y a beaucoup de villageois en Inde, quand on découvre qu'ils sont chrétiens, tu es impur, tu n'as plus accès au puits. Vous tenez combien de temps sans eau? Il faut trouver un moyen. Et là, un des moyens qui a été trouvé, c'est Portes Ouvertes qui a financé ça, une petite entité, une sorte de ferme horticole où on produit du compost. Et pour produire du compost, il faut un puits. Et tous ceux qui font partie de cette société, de cette entreprise, c'est des villageois, des villages alentours qui viennent là tous les deux jours pour s'occuper du compost, pour avoir ensemble... C'est très rudimentaire, mais pour avoir une étude biblique ou une réunion de prière ou un culte le soir dans les locaux, et puis après ça, ben on repart avec le bidon d'eau sur l'épaule qu'on a puisé dans la journée au puits, puis ça fera pour les deux jours suivants. Je vous assure, ils sont très assidus au culte. Parce que l'eau, c'est la vie. Si on réalisait à quel point la parole, c'est la vie aussi, on serait peut-être plus assidus. Je sais bien qu'on peut lire la parole à la maison, on est bien d'accord. Mais toujours est-il que d'avoir comme ça cet endroit où ils peuvent se réunir, qui est devenu à quelque part leur église, mais aussi leur gagne-pain, mais aussi l'endroit de la vie où il y a l'eau, eh bien c'est très précieux pour eux. Et c'est quelque chose qui est autosuffisant parce que le compost qu'ils produisent, c'est du compost bio qui se vend très très bien à la ville. Vous savez, il n'y a pas qu'ici où on défile dans les rues pour le climat. Les Indiens sont aussi préoccupés par le climat. Et si on leur dit qu'il y a du compost bio, ils vont l'acheter. Tout ça pour vous dire que ces pasteurs, ces villageois, ceux qui nous racontent leurs histoires, ne sont pas découragés. Bien sûr, ils montrent ce qu'ils ont souffert. Bien sûr, ils apprécient l'aide qu'on leur apporte. Mais surtout, surtout, ils veulent continuer d'être un témoignage de vie dans leur pays. Je pense par exemple à cet autre pasteur. Lui, ce n'était pas en mars que son église avait été brûlée, c'était en février de l'année passée. Catastrophe. Au mois d'avril, pendant la période de Pâques, j'organise un camp d'enfants. Vous savez, un de ces camps de jour où les enfants viennent juste la journée pendant les vacances scolaires et puis repartent le soir chez eux pour dormir, puis ils reviennent le lendemain. D'habitude, il y en a 50 qui viennent et j'ai plus de locaux. Comment est-ce que je fais? Et puis, il a une idée. Je vais acheter des piquets et puis des tentures, puis on va ainsi délimiter un espace. Puis tant qu'à faire, on fait sur l'espace de tout le terrain et pas seulement du bâtiment qui a été détruit. Et vous savez, ici, quand il y a des attentats qui se passent, il y a des gens qui mettent sur leur t-shirt « Je suis Paris, je suis Bruxelles » ou sur leurs photos sur Facebook. Eh bien, en Inde, ça se passe aussi, mais d'une autre façon. Tous les villageois n'étaient pas d'accord avec le fait qu'on avait brûlé l'église. Et pour dire, on va pas dire « Je suis chrétien », mais enfin « Je suis avec ceux qui ont subi cela », eh bien, du coup, ils ont envoyé leurs enfants en masse à ce camp d'enfants. Et au lieu des 50 habituels, le premier matin, il y en a 230 qui sont venus. Et à la fin de la semaine, ils étaient 280. Et quand on se souvient qu'en Inde, la moitié de la population a moins que 15 ans, vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être planté là, par ces pasteurs qui touchent aussi cette jeune génération. Alors voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire. Et donc on a cette campagne Impact Inde, parce qu'on voit bien que la persécution augmente. On voit bien qu'il y a davantage de personnes qui ont besoin de recevoir une visite, qui ont besoin d'être approchées physiquement et pas juste de savoir que peut-être il y a quelqu'un qui prie à l'autre bout du monde. Et nos équipes ne suffisent plus, donc je ne peux pas donner de chiffres, mais l'idée, c'est de doubler d'ici à la fin 2020 ce nombre d'équipes. Il faut recruter des gens, mais il y a des gens qui sont prêts à le faire. Et puis, il faut trouver de quoi financer ces gens. Mais aussi, il va s'agir de soutenir ces gens qui vivent dans les zones rurales, de prier régulièrement pour des situations concrètes. Alors, je vous ai donné une prière, un sujet de prière très concret, c'est ces élections qui arrivent au mois d'avril. Mais donc, c'est aussi de soutenir financièrement ses frères et sœurs en Inde. Alors nous, dans cette campagne, quoi faire? Ben, je vous recommande d'être régulièrement informé. C'est très important. Et puisqu'on a une campagne de 2 ans, on s'est engagé pendant 2 ans à donner régulièrement des nouvelles de l'Inde dans ce magazine que vous avez trouvé sur vos chaises et dans les calendriers de prière qui est à l'intérieur. Je vous le montre. Voilà. Ce calendrier de prière, vous avez un sujet par jour. Ça prend, allez, entre 15 et 30 secondes pour le lire. Puis après, la balle, elle est dans votre camp. Alors ne lisez pas tout d'un coup, prenez-le vraiment jour par jour. C'est un principe, non pas un principe spirituel que je vais vous donner là, mais un principe gastronomique. Si vous voulez manger un éléphant, il faut le découper en petits morceaux. Eh bien, soutenir l'Église persécutée, c'est peut-être pour certains comme un éléphant. C'est énorme cette histoire qu'on nous montre. Ces millions de chrétiens persécutés en Inde. Oui, ben on va s'occuper de un après l'autre. Un sujet de prière après l'autre. Et tout d'un coup, ça devient digeste. Et puis à force de digérer ça, jour après jour, semaine après semaine, vous allez finir par vous ressentir, comme disait une dame qui a plus de 40 ans avait commencé de voyager avec Portes Ouvertes pour amener des Bibles en Roumanie, et puis qui depuis n'a jamais cessé de se préoccuper de l'Église persécutée. Elle dit à force de prier pour eux, ils sont devenus une part de nous. Et c'est bien pour ça que je suis là ce matin. Pour que nous réalisions, nous sommes un peuple. Le peuple de Dieu. Et on est tous membres les uns des autres. On fait partie de ce corps. Donc il y a ce magazine. Je vous invite sérieusement à vous poser la question si vous ne le recevez pas encore. Et dire oui, je m'engage à recevoir ce magazine, il suffit pour ça de remplir cette carte, puis au lieu de la renvoyer par poste, il n'y a pas de boîte postale ici, vous allez me la redonner directement en sortant, comme ça on évite et les frais de port, et un jour de transport. Et puis vous verrez, il y a une deuxième petite croix pour les dames, et vous en avez trouvé un exemplaire avec vous là. Il y a cette lettre de femme à femme qui vient, elle, ça, le magazine c'est tous les mois, ça c'est tous les deux mois. Donc si mesdames voulaient aussi recevoir la lettre de femme à femme, vous allez encore devoir faire l'effort de marquer une petite coche dans cette inscription de femme à femme. Et puis si vous remplissez encore votre email sur la carte, eh bien, ça veut dire que chaque vendredi, vous recevez un email de prière avec un sujet de prière. Ça, c'est pour prier. J'ai pris avec moi quelques exemplaires de ce livre, le Sadhu Sundar Singh. C'est un vieux livre, ça c'est une réédition. Hein. Mais quand vous le lirez, vous apercevrez que finalement, alors oui, ils ont des téléphones portables aujourd'hui en Inde, mais finalement, le contexte indien n'a pas tellement changé. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas ce parti BJP, il n'y avait pas cet Hindutva, il n'y avait pas ce RSS, mais il y avait déjà des violences contre les chrétiens. Il y avait déjà des violences contre ceux qui suivaient une autre voie. Et vous serez bénis en lisant ce livre si vous l'avez jamais lu. Encore une fois, c'est un vieux livre. Moi, je l'ai lu, ça fait plus de 40 ans. C'est une réédition. Mais ça vaut vraiment la peine. Ça vous boostera dans votre foi. Donc, je l'ai là à la librairie. Passez faire un tour. Pour les jeunes, jusqu'à 30 ans, on peut pousser peut-être à 32, 35 ans. Il y a un voyage au Liban. En juillet prochain, si vous êtes concerné, passez vers moi aussi à la table de librairie. Voilà, ça fait un petit peu annonce, ce que je fais là maintenant. Je vous remercie pour votre engagement pour l'Inde. Et maintenant, comme le temps n'est pas très avancé, je vous proposerai qu'on prenne maintenant quelques minutes. Alors, je ne sais pas quelles sont vos pratiques, si on peut se tourner les uns pour les autres, ou on prie tous ensemble, qu'est-ce qui est préférable ? On peut se lever, se mettre en petit groupe là autour. Et puis, je vous propose qu'on prenne 3 à 4 minutes maintenant. Priez pour l'Inde avec ce que vous avez entendu, ces sujets que je vous ai confiés ou ce que vous trouveriez dans ce magazine. Et puis, je laisserai le soin à votre président de conclure. On y va comme ça ?